What's going on?
Bonjour à tous et bienvenue sur auravive.fr pour une nouvelle émission des Insos, l'émission qui vous fait découvrir des faits insolites, surprenants, amusants, bizarres parfois, mais toujours vrais. Vous êtes en compagnie de Jean-Louis, toujours très heureux d'être à vos côtés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager et découvrir quelques anecdotes insolites sur notre capitale, Paris. Savez-vous que la Seine ne devrait pas s'appeler ainsi? Qu'il y a plusieurs statues de la liberté à Paris? Que ce n'est pas Gustave Eiffel qui a construit la fameuse tour? Je vous révèle toutes ces anecdotes insolites et bien d'autres encore, juste après vous avoir invité à écouter Marc Lavoine, Paris.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts, ta rengaine toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai. Jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Tes rues, tu me marches sur les pieds, je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots.
Les Insos de Jean-Louis.
On commence notre émission des Insos sur Paris avec des faits surprenants, étranges et amusants que vous ignorez peut-être sur la ville lumière et qui vont probablement vous étonner. Savez-vous que l'hôtel de Paris abrite un bunker dans ses sous-sols? Ce bunker est le résultat d'un traumatisme survenu à la fin de la Première Guerre mondiale, le 29 mars 1918, la destruction de l'église Saint-Gervais située juste derrière l'hôtel de ville, par un obus lors d'un bombardement. Pendant l'entre-deux-guerres, alors que la menace d'un nouveau conflit mondial se précise, le gouvernement français fait construire quelque 250 bunkers sous les bâtiments administratifs de la capitale, dont celui de l'hôtel de ville en 1937. précaution inutile puisqu'il ne sera jamais utilisé. Aujourd'hui conservé dans son état, il n'est devenu qu'un simple lieu de stockage. Il n'y a plus aucun panneau stop dans Paris. En effet, le tout dernier panneau stop de Paris a été retiré en 2013. Il se trouvait sur le quai Saint-Exupéry dans le 16e, à la sortie d'une entreprise de matériaux de construction. C'est une originalité typiquement parisienne, tant les grandes autres villes françaises regorgent de ces panneaux octogonaux. Un choix pragmatique pour fluidifier le trafic justifie la préfecture de police, qui privilégie la priorité à droite dans les rues de la capitale, jusque dans les ronds-points à l'image de celui de l'Étoile. La ville de Paris abrite 6 répliques de la Statue de la Liberté réalisée par le sculpteur Auguste Bartoli, qui est installée sur Liberty Island au sud de Manhattan à New York. La première réplique est celle de la pointe de l'île aux cygnes qui a été installée dans le cadre de l'exposition universelle de 1889. La deuxième est un modèle de 2,85 m qui a été placé dans le jardin du Luxembourg en 1906, puis transféré au musée d'Orsay. La troisième statue provenant du jardin du Luxembourg a été placée dans la grande galerie du musée d'Orsay. La quatrième et cinquième répliques se trouvent au musée des arts et métiers qui abrite 2 statues de la liberté, une en bronze, une autre en plâtre. La sixième est la plus insolite, et il faudra avoir l'œil pour la trouver, car cette miniature, une dizaine de centimètres, est incrustée dans le torse de la statue du centaure réalisée par César et installée sur la place Michel Debré. La tour Eiffel aurait dû s'appeler en réalité la tour Kuching-Nouguier. C'est beaucoup moins glamour, je vous l'accorde. Et pourtant, ce sont bien les ingénieurs Émile Nouguier et Maurice Koechling qui sont à l'origine du plus célèbre des monuments parisiens. À l'occasion de l'exposition internationale de 1889, la France voulait un projet grandiose pour marquer son renouveau après le conflit franco-prussien. Si Eiffel avait bien eu l'idée d'une structure métallique, ce sont ces deux ingénieurs qui vont travailler au projet d'une tour de 300 mètres. Une première ébauche ne séduit pas Gustave Eiffel, mais quelques mois plus tard, des améliorations conséquentes apportées par un architecte français, Stéphane Sauvestre, vont remporter ses faveurs. Gustave Eiffel s'appropriera le brevet et accolera son nom à la tour, passant ainsi à la prospérité. Mais rendons également à Eiffel ce qui lui appartient. Lors de la construction, il a lui aussi grandement contribué à faire de la tour ce qu'elle est aujourd'hui. Elle fait partie de ces expressions qu'on utilise sans trop savoir pourquoi, les poulets, une insulte envers les agents de la force de l'ordre. Cette comparaison tire son origine dans un événement qui a marqué la capitale au 19e siècle. En 1871, les Parisiens se soulèvent et pendant 2 mois, plusieurs bâtiments municipaux vont brûler, dont l'hôtel de ville et la préfecture de police, alors situés dans l'ancien hôtel des premiers présidents du Parlement et sur l'emplacement de l'actuel palais de justice. Cette période insurrectionnelle est connue sous le nom de Commune de Paris. Le maire de l'époque, un certain Jules Ferry, décide de reconstruire la préfecture à l'emplacement de l'ancien marché aux volailles de Paris. Il n'en fallait pas plus aux Parisiens pour affubler leur gardien de la paix du nom de poulet. Je vous propose une petite pause dans les insos, le temps d'écouter Jacques Dutronc, Paris s'éveille sur Radio Auraville.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Aura Vive,
plus près de vous.
Les insos de Jean-Louis.
De retour sur Radio Aura Vive pour la suite de vos insos consacrés aujourd'hui à notre capitale. Paris avait initialement 12 arrondissements. En effet, par la loi du 11 octobre 1795, Paris est divisé en 12 arrondissements, 9 rive droite et 3 rive gauche. Ce n'est qu'en 1859 que les 20 arrondissements que l'on connaît voient le jour, alors que le baron Haussmann est à l'œuvre pour transformer l'architecture et l'organisation urbaine de la ville. Cette création fait suite à l'annexion des faubourgs situés entre le mur des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers, qui correspond plus ou moins aux limites actuelles de la capitale. Alors que d'autres monuments parisiens subissent la patine du temps et de la pollution, la basilique du Sacré-Cœur semble résister encore et toujours à ces attaques. La raison tient au type de pierre utilisée pour construire l'édifice, érigé entre 1875 et 1923. Ces pierres proviennent d'une carrière de Château Landon en Seine-et-Marne et sécrètent du calcin, qui a la propriété de durcir et de blanchir sous l'action conjuguée de la pluie et du soleil. Alors merci à l'architecte Paul Abadie et aux 6 autres qui lui ont succédé. Et une mention spéciale à Dame Nature, sans qui rien, absolument rien, n'aurait été possible. En regardant la scène aujourd'hui, elle ne semble pas très appétissante. Mais jusqu'à il y a 100 ans, les gens la buvaient encore. C'était avant que des scientifiques ne testent l'eau et ne trouvent nombreuses choses qui n'étaient pas buvables. Une véritable maladie reconnue, le Paris syndrome, touche les touristes qui ont une idée si incroyable de la ville lumière qu'ils sont terriblement déçus quand ils la visitent. Les touristes japonais sont particulièrement exposés à cette maladie avec des symptômes tels que vertige, anxiété et même hallucination. Si vous vous êtes promené à travers Paris, vous avez pu remarquer des chiffres gravés sur les trottoirs. En fait, ce sont les dates de construction de chaque partie de ces trottoirs. Il y a 470 000 arbres à Paris et chacun d'entre eux est référencé et mesuré. Si vous passiez une minute pour mesurer et noter chaque arbre, vous passeriez une année de comptage ininterrompu pour les référencier tous. J'espère que cette tâche a été partagée lors du comptage. Le monument qui est le plus visité à Paris n'est pas la Tour Eiffel, qui est le monument le plus représentatif de Paris, mais en réalité la cathédrale de Notre-Dame. 13 millions de personnes viennent du monde entier pour visiter ce célèbre monument. C'est 30 000 par jour. Le 17 novembre 1800, le gouvernement français a introduit une loi interdisant aux femmes de porter des pantalons sans permission de police. Clairement, elle n'a pas été appliquée depuis des années, mais elle n'a pas été supprimée officiellement jusqu'en 2013. Ça ne fait donc que 10 ans que légalement, les femmes ont le droit de porter les pantalons. Paris abrite 830 bibliothèques, soit une bibliothèque pour 2900 habitants, ce qui en fait la ville qui propose le plus grand nombre de bibliothèques par habitant au monde. Il n'est pas étonnant que la ville ait accueilli tant de littéraires célèbres au fil des ans. Il y a 6100 rues à Paris et la plus courte est la rue des Degrés dans le 2e arrondissement. De seulement 5,75 mètres, Elle n'est rien de plus qu'un petit escalier. On se retrouve dans quelques minutes sur Radio Auraville, le temps de vous inviter à écouter Zaz, Paris sera toujours Paris.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Les insos de Jean-Louis.
Un crocodile dans les égouts, un promeneur de homard ou encore un loup en liberté dans la ville. Jean-Louis, à nouveau avec vous sur Radio Auraville pour vous surprendre et vous étonner avec une petite compilation d'événements insolites qui se sont déroulés à Paris. On commence en douceur avec l'une des anecdotes insolites les plus connues de Paris. En 1984, c'est quand même assez récent, deux égoutiers travaillant près du Pont Neuf font une découverte quelque peu étonnante. Un crocodile du Nil. Le spécimen, âgé de 2 ans, mesure entre 70 et 80 cm. Assez pour donner une belle frayeur aux deux hommes qui appellent à la rescousse les pompiers de Paris, qui arrivent à capturer l'animal. Probablement abandonné par ses propriétaires lorsqu'elle a grandi, le crocodile, baptisé Éléonore, est envoyé à l'aquarium de Vanves avant d'être transféré à la ferme aux crocodiles de Pierrelatte dans la Drôme, où elle vit aujourd'hui des heures paisibles et mesure quand même plus de 3 mètres de long. Un crocodile de cette espèce peut vivre entre 70 et 100 ans. En parlant d'animaux, confronté au rationnement, au manque d'approvisionnement et donc à la famine lors du siège de Paris, en 1870 et 1871 par l'armée prussienne, les mets les plus fins de la capitale étaient devenus les chevaux, les rats d'égout, les chats et les chiens errants de la ville. Et même les deux éléphants du jardin d'acclimatation, Castor et Pollux. Face à la famine, les boucheries parisiennes de l'époque ont dans leur vitrine des viandes bien inhabituelles. Kangourous, antilopes, zèbres, chameaux. Un musée des horreurs comestibles. Un peu plus de légèreté après cette histoire a retourné l'estomac. De 1796 à 1911 à Paris, il était commun d'entendre un coup de canon venant des jardins du Palais Royal tous les jours à midi. Enfin, tous les jours où il faisait beau. En effet, un horloger de la capitale avait installé un canon en bronze au milieu des jardins, activé par une mèche, allumé elle-même par une loupe qui concentrait la lumière du soleil à midi pile, d'où l'expression « pétante » pour désigner l'heure exacte. On reste au jardin du Palais Royal pour une anecdote complètement loufoque. Le poète Gérard de Nerval, protégé de Victor Hugo, sombre malheureusement dans la folie assez tôt dans sa vie. En 1941, le poète va sombrer dans une première crise de désillusion et balader son homard de compagnie dans les chics jardins du Palais Royal. Un événement complètement insolite qui ne passe pas inaperçu, auquel le poète répondra « En quoi un homard est-il plus différent qu'un chien, un chat, qu'une gazelle ou un lion ?» Malheureusement, sa folie l'amènera à se pendre à un lampadaire près de l'hôtel de ville en 1855. Le lampadaire, c'était moi ! On reste dans une anecdote animalière. En 1972, un vétérinaire fait une observation étrange. Le chien agressif qui vient d'échapper à son propriétaire et qui a été retrouvé en plein cœur du parc Monceau n'est pas un chien, mais un loup. Le maître, un propriétaire de cabaret à Paris, avait cru acheter un chien. Mais en grandissant, son gros toutou s'est avéré être un Canis lupus, un vrai loup. Elle prend sa source en Côte d'Or, puis effectue des lacets pendant 776 km en passant par Paris, Giverny, Rouen, avant d'atteindre le Calvados, puis d'aller se jeter dans la Manche. Pas de doute, on parle bien de la Seine, un fleuve connu dans le monde entier. Mais pourtant, ce fleuve n'aurait pas dû s'appeler la Seine, mais l'Yonne. En effet, selon l'hydrographie, c'est la science qui étudie les cours d'eau, lorsque deux cours d'eau se rejoignent, c'est celui qui a le débit le plus important qui impose son nom à l'autre. Et à Montereau-Faux-Yonne, dans le département de la Seine-et-Marne où les deux fleuves ont leur confluence, c'est bien l'Yonne qui a le plus d'eau. En revanche, la question ne se pose pas vraiment à Alfortville, où la Marne se jette dans la Seine, puisque c'est bien la Seine qui a le débit le plus important. Le choix d'appeler la Seine plutôt que l'Yonne serait lié à la source du cours d'eau qui avait été divinisé par la princesse Sekena, qui était aussi la déesse Sekena. Quoi qu'il en soit, on se voit mal revenir en arrière pour une simple règle hydrographique. Sinon, il faudrait rebaptiser un certain nombre de départements et de villes pour Lyon et Marne, Lyon-Saint-Denis, les Hauts-de-Lyon ou encore Neuilly-sur-Yonne. Et sous le pont Mirabeau, coulerait Lyon et nos amours.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout
ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
What's going on?
L'émission des Insos consacrée à la ville de Paris se termine. J'espère qu'elle vous a plu et que vous verrez notre capitale sous un œil un peu différent. Mais promis, une des prochaines émissions des Insos sera consacrée à Marseille et vous constaterez que les histoires insolites ne manquent pas là non plus. Je vous retrouve très vite sur Radio Aura Vive pour une nouvelle émission des Insos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.
Plus près de vous, c'est Aura Vive. Votre radio, c'est Aura Vive. Plus près de vous, c'est Aura Vive. Votre radio, c'est Aura Vive.